Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Alors, vous allez peut-être ressentir un léger vertige, être pris de doute, mais non, vous êtes bien sur France Inter.
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
4 secondes exactement, parce que nous sommes en...
France Inter qui accueille ce matin une voix de RTL. Mieux, il nous a fallu préenregistrer cette émission car mon invité Julien Courbet cause actuellement dans le poste chez nos concurrents. Nos émissions sont diffusées en même temps. Julien Courbet qui, à la faveur du rachat de RTL par M6, s'est vu offrir une nouvelle vie en télévision. Il commence par reprendre Capital, le magazine emblématique de la 6. Et ce soir, il lance Qui veut être mon associé? Un concours d'entrepreneurs à la recherche d'investisseurs. L'occasion de s'interroger sur la médiatisation de l'entrepreneuriat et au-delà sur le rapport que la télévision française entretient à l'argent. Combien on gagne et combien on dépense, combien ça coûte et combien ça rapporte, combien on perd et combien on récupère. 25 années que mon invité écoute les Français à ce sujet.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Julien Courbet.
Bonjour Sonia.
Voix de RTL, visage de M6, ça tombe bien, maintenant c'est la même maison. Qui veut être mon associé ce soir à 21h? On va expliquer rapidement, Julien, l'idée de cette émission. Vous avez de jeunes entrepreneurs qui viennent chercher des fonds. En échange de ça, ils offrent une part de leur business. Tout ça est très concret, très pragmatique dans leur vie entrepreneuriale à venir. On appelle ça des investisseurs. On appelle ça même dans le jargon des business angels, comme si vous présentiez non pas les anges de la télé-réalité, mais les anges de l'entrepreneuriat, c'est ça?
C'est un petit peu ça, oui. C'est vrai que c'est vraiment des porte-bonheur parce que... Alors, juste un tout petit rectificatif, ce ne sont pas que des jeunes. Ce qui est incroyable dans le casting, c'est que l'on a absolument de tout.
Ce sont de jeunes entreprises.
Alors, voilà, qui démarrent et qui se disent à un moment donné, j'y vais. Malheureusement, quand on va voir une banque, eh bien, beaucoup de personnes qui nous écoutent sont bien placées pour savoir que malheureusement, on ne prête qu'aux riches, c'est la vérité. Eh bien, nous, on va prouver le contraire. Nous avons 5 personnes. Et là où ça devient intéressant... c'est qu'il s'agit de leur propre argent. Ce n'est pas l'argent de la production, ce n'est pas l'argent de la boîte de prod de la télé, c'est le leur. Donc, il faut quand même qu'ils fassent attention, parce qu'on atteint quand même des sommes qui sont conséquentes. Mm-hmm. Il y a parfois des chèques sur un seul entrepreneur de 125 000 euros qui sont faits. Ils ont donc quelques minutes, en fait, pourquoi ? Pour voir... C'est un peu comme sur Tinder, si ça match avec la personne qui vient présenter son projet. Il faut qu'il sente tout de suite dans ses yeux, dans sa voix, si cet homme-là ou cette femme-là va pouvoir porter le projet. Il faut qu'il se sente intéressé par le projet, parce qu'au bout du compte, ne nous mentons pas, ça ne va pas changer la vie de l'entrepreneur, de l'investisseur. Il ne sera pas plus riche.
Mais ça va changer la vie de l'entrepreneur.
Mais ça va. Donc c'est vraiment ça.
Et alors justement, vos investisseurs sont eux-mêmes des entrepreneurs qui ont réussi. Il y a parmi eux, par exemple, Marc Simoncini, fondateur entre autres de Mythique, qui est traité comme une véritable rockstar sur votre plateau. C'est extrêmement intéressant parce que ça pose vraiment la question de qui sont les entrepreneurs médiatisés, connus du grand public en France. Quelles sont les références pour vos candidats en termes d'entrepreneuriat? On écoute l'un d'entre eux.
Donc vous avez un site internet où je peux demander à vous renvoyer ma valise?
Exactement, vous faites une demande d'enlèvement, on récupère la valise chez vous, on la répare, on vous la livre.
Oui, il a déjà tout fait quoi.
Moi je suis Steve Jobs, j'aime bien tout maîtriser.
Moi, je suis Steve Jobs. Oui, c'est une belle référence. Mais c'est intéressant de voir en France, Julien Courbet, qu'il y a qui? Il y a Jacques-Antoine Grangeon, venteprivé.com, avec sa chevelure léonine, qui est beaucoup passée à la télé. Il y a évidemment Xavier Niel, le patron de Free. Mais sinon, en France, c'est un métier peu valorisé et peu médiatisé.
Le métier d'entrepreneur est un métier, et moi, à mon tout petit niveau par rapport à ces gens-là, effectivement, il arrive un moment donné où il va falloir dans ce pays, et j'espère que cette émission va y contribuer, aussi dire merci aux entrepreneurs et merci d'avoir monté ça. Parce que monter une entreprise, ce n'est pas facile. C'est des heures, c'est du stress. C'est de se dire comment je vais payer mes employés à la fin du mois. Mais au moins, montrer que quand vous démarrez, ce n'est qu'une feuille de papier où vous avez griffouillé une idée en vous disant « je voudrais faire ça » et qu'à l'arrivée, ça se retrouve avec des locaux, avec des centaines de gens. Là, par exemple, dans cette émission...
Ce qui est très intéressant, je trouve, dans la médiatisation de l'entrepreneuriat en France, c'est qu'il y a des invariants au journal télévisé. C'est-à-dire, l'entrepreneur de TPE-PME, quand on lui donne la parole au JT, c'est toujours parce qu'il voudrait embaucher, il ne trouve pas de main-d'œuvre. Et sinon, il se plaint toujours de son statut. Il est étranglé par le RSI. C'est rarement une vision positive. Vous êtes d'accord avec moi ? Vision, rarement une vision positive.
Parce qu'on leur tend souvent le micro pour savoir de quoi ils se plaignent.
Exactement.
Et rarement pour leur dire, parlez-nous de votre métier, faites-nous rêver. On leur pose que des questions comme ça. Alors,
Ou alors, extrême inverse, on est dans la super success story qui concerne, je ne sais pas, 0,01% des entrepreneurs en France. Vous-même, à vos tout débuts, vous avez raconté des success stories sur TF1.
Sauf que ce que l'on peut reprocher aujourd'hui à la médiatisation de ces success stories, c'est de montrer, et je crois que c'est très années 80 et c'est devenu un peu ringard maintenant, à l'époque, comment montrer les chefs d'entreprise ? Et je l'ai fait, j'y ai participé. J'avais une émission qui s'appelait Succès. Ça démarrait toujours par un jet sur le Bourget. Bourget, 14h20. Machin monte dans son avion. L'objectif, un gros contrat à Dallas. Dans 7 heures, il devra... On ne montrait que ça, mais...
Qui les entrepreneurs à succès de cette génération-là ?
Alors, dans cette émission Succès, on les avait...
C'était Alain Lafleulou.
On avait fait Leclerc, on avait dû faire Afflelou, on avait fait Bourgoin, qu'on voyait partout à l'époque, avec ses poulets, Hamid Depardieu.
C'était la génération Tapie. Trigano, le Club Med, etc. Vous avez choisi un autre biais pour les valoriser. On va voir quels sont ses vertus, mais quelles sont aussi ses limites. C'est la super bonne idée.
Chers investisseurs, nous sommes ici pour vous présenter le premier vernis semi-permanent qui change de couleur à la demande.
Donc avec notre produit, en fait, on révolutionne la brosse à dents. On a développé pendant 3 ans, avec des dentistes, avec des ingénieurs, un dispositif qui permet de vous brosser les dents non plus en 2 minutes, mais en seulement 10 secondes, et bien sûr de manière efficace.
J'ai lancé ma start-up en faisant d'une passion une start-up florissante. Je propose une sélection de papeterie, mes petites cartes à planter.
Est-ce que là, vous ne risquez pas aussi, Julien Courbet, de tomber dans un autre biais, une autre impasse, qui est de réduire l'entrepreneur au concours Lépine, au Bonaldi de la bonne idée, et de tomber seulement dans l'invention insolite ? Est-ce qu'on ne peut pas en France être un très bon entrepreneur, innovant dans son métier, dans sa gestion, dans son management, sans avoir une idée révolutionnaire en faisant un métier?
Non mais Sonia, c'est le cas. Là, vous avez donné 2 exemples d'invention, mais sur... je vais vous dire, il y a au moins 60% de business qui existe déjà. On a par exemple eu quelqu'un qui est venu proposer une franchise de fast-food. On a des gens qui sont venus proposer des collections de fringues réfléchissantes. Enfin, rien d'extraordinaire. Mais effectivement, vous avez raison, très souvent, la médiatisation de l'entrepreneur, c'est toujours parce qu'il a eu une idée révolutionnaire. Et on oublie que pour une entreprise qui a une idée révolutionnaire, il s'en monte au moins 100 chaque jour, qui a une idée tout à fait classique, mais qui a à la tête un bon gestionnaire va savoir faire prospérer son groupe.
C'est ça la question, c'est est-ce que derrière, il faut absolument se trimballer avec toute une cohorte de valeurs positives, innovantes, etc., etc. Est-ce que gagner de l'argent, gagner sa vie, c'est ça ? Est-ce que créer des emplois, c'est ça la question que ça pose derrière ?
Moi, ça m'a jamais posé de problème, encore une fois. Moi, ma première émission, il y a plus de 30 ans, sur une chaîne qui s'appelait TF1, ça s'appelait Pourquoi pas vous ? J'ai toujours été passionné. C'est pas tellement le fric que ça va rapporter. Moi, ce qui m'a passionné, par exemple, dans l'histoire d'Afflelou, quand je lui demande, vous partez de rien, et vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands opticiens de France, peut-être d'Europe et du monde, mais quand il vous raconte, j'avais un tout petit magasin d'optique et j'ai dit à mes employés, vous allez tous mettre une blouse blanche. Je lui dis, mais pourquoi vous leur dites ça ? On va faire médecin. Ça va nous donner du sérieux par rapport à tous les concurrents. Et à partir de là, c'est ce genre de choses qui m'intéresse, c'est ce génie, l'idée, le petit truc qui fait que pour ça marche pour l'un et ça ne marche pas pour l'autre. Maintenant, moi je fais partie de ceux qui ont une pensée plutôt américaine, tu as réussi, tu es devenu riche, explique-moi comment que je le fasse, plutôt que de dire, tu as réussi, il y a forcément quelque chose de pas net chez toi.
En même temps, ça reflète relativement peu votre carrière et toutes les émissions pour lesquelles on vous a connu sur RTL et sur TF1. C'est-à-dire que le personnage phare de vos émissions pendant très longtemps, Julien Courbet, ça n'a pas du tout été l'entrepreneur qui réussit, ça n'a pas du tout été l'homme de la success story, ça a été l'homme de la rue, ça a été le français modeste, ça a été le particulier et l'individu. On écoute.
Ils rêvaient d'une belle et grande maison en région parisienne, un rêve qu'ils avaient confié à un promoteur. Mais l'escroc a disparu dans la nature et aujourd'hui, 5 familles se retrouvent ruinées, propriétaires d'une maison inachevée, inhabitable depuis 9 ans.
On souhaite quand même qu'un jour on pourra avoir une petite maison à nous.
Vous verrez aussi dans quelle situation terrible ce couple est plongé. Obligé de vivre dans une caravane sur leur propre terrain, alors qu'ici même, un pseudo-architecte devait leur construire une superbe maison.
Voilà, une archive de 1999.
Mais
c'était le menu de... Non, l'un n'empêche pas l'autre, pas du tout. Justement, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous avez contribué à médiatiser ces français-là. Ces Français modestes, ces Français qui se sentaient sans recours face aux aléas de la vie, face à l'administration, face aux droits et aux devoirs. Ces Français qui faisaient appel à vous, un homme de médias, à la télévision pour venir les aider.
Il y a une réalité qui est que l'on vit, dans ce pays et certainement ailleurs, le pot de terre contre le pot de fer. Je les vois tous les jours, c'est mon métier à la radio, je l'ai fait à la télé. Et j'ai trouvé intéressant qu'une émission de télé va vous permettre de ramener, il y a deux personnes face à face, une est au 10e étage, l'autre est au 1er. Et bien grâce à la télé, à la radio, à la médiatisation, ils se retrouvent tous les deux au 10e pour avoir le même dialogue. Et ça, je trouve que c'est une vertu que peut avoir la télé, que peut avoir la radio. Je ne supporte pas l'injustice. Je préfère quelqu'un de plus noble comme Robin des Bois qui va effectivement voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais quand vous avez face à vous un groupe énorme qui dit à celui qui s'est fait avoir, certes, on s'est trompé, eh bien, vous allez nous faire un procès. Vous en avez un qui gagne 1000 euros par mois face à 45 milliards de chiffre d'affaires.
Le procès, vous allez faire. La médiatisation donne du pouvoir à celui qui gagne 1000 euros par mois. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez entendu à votre micro que vous tendez depuis 25 ans cette colère qui monte et surtout ce sentiment d'abandon qui a explosé dans la rue avec les gilets jaunes il y a un an? Est-ce que vous l'avez vu arriver?
Ce pot de terre contre le pot de fer, je l'ai senti monter de plus en plus. La mondialisation est pour quelque chose. Je pense que l'homme de la rue a l'impression que maintenant, il a face à lui des mastodontes contre lesquels il ne pourra jamais se battre et qu'il dit haut et fort, donnez-nous au moins les moyens de pouvoir réagir et être à armes égales.
Être entendu.
Exactement.
Être entendu tout simplement. Et par ailleurs, cette France pavillonnaire dont on a beaucoup, beaucoup parlé pendant la crise des Gilets jaunes, cette France pavillonnaire, elle est au cœur de vos émissions depuis 25 ans. Ces problèmes de voisinage, ces problèmes de maison, le rêve de la petite maison qui vire au cauchemar, c'est quelque chose que vous avez traité sous tous les angles, Julien Courbet.
Je vais juste vous donner une parenthèse pour la petite maison, parce que peut-être qu'un politique nous écoute et pourra faire bouger les choses, puisqu'on est aussi là pour être un peu agitateur d'idées. Si vous voulez devenir monter un salon de coiffure demain, il vous faudra un diplôme. D'accord ? Sinon, vous ne pouvez pas le monter. Idem, il vous faudra une caution si vous montez une agence immobilière. Si vous voulez demain monter Sonia de Villers Construction, alors que vous, je plaisante, vous ne savez pas planter un clou, eh bien, vous le pouvez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
je peux monter mon entreprise
voilà,
de BTP.
N'importe qui, du moment que vous ne dépassez pas, je crois que c'est 140 mètres carrés où il vous faudra, c'est pas le chiffre exact, un architecte. Et donc, aujourd'hui, mais il faut le savoir, la France est truffée de gens qui ne savent pas construire des maisons et qui en vendent, qui vous prennent la compte, mais là où c'est moins drôle, c'est que l'achat d'une maison, c'est l'achat d'une vie. C'est pour ça qu'il y a quasiment que ça dans mes émissions. C'est des drames humains. C'est-à-dire qu'on vous prend 80 000 euros, il fait la chape, il s'en va parce qu'il ne sait rien faire d'autre, il ne sait même pas monter un mur. Il part dans la nature, il dépose le bilan, il recommence dans le département d'à côté. Et il va falloir à un moment donné qu'on encadre un petit peu tout ça parce que il y a vraiment des drames humains en cascade.
Alors j'ai cherché un lien entre ce travail que vous avez fait longtemps sur TF1, que vous avez fait ensuite sur d'autres chaînes, ce travail que vous poursuivez sur RTL, et l'émission qu'on va voir ce soir sur M6, qui veut être mon associé. Et je me suis dit, le point commun, c'est une autre façon de parler de l'argent.
Donc nous, on vend le vernis 12 euros hors taxe.
Ça vous revient combien un flacon? Parce qu'avec 200 000 euros, vous faites quand même plus que 5 000 flacons.
Ah non, alors en fait, il y a 5 000 flacons et 5 000 bases.
Ah, 5 000 bases aussi. 5 000 flacons, 5 000 bases et 10 000 Magic Box. Et donc, si vous écoulez le total de tout ça, vous faites combien de chiffre d'affaires?
Donc, on fait, sur les flacons, on fait 40 000 euros. On fait 80 000 euros. 100 000 euros, pardon, je dis n'importe quoi.
Non, on va le refaire calmement parce que ça marche pas votre truc.
Voilà, extrait de Qui veut être mon associé à voir ce soir sur M6. Ça fait très longtemps, Julien Courbet, que vous parlez d'argent, mais avec des chiffres, des vrais, à la télévision et à la radio. Est-ce que vous trouvez que le rapport des médias à l'argent, sachant qu'en France, c'est un pays où on a du mal à parler d'argent, c'est assez tabou, ça ne se fait pas?
Alors, sur les salaires, moi, j'en parle jamais, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose de très personnel. Je n'ai jamais, jamais demandé à quelqu'un combien gagnez-vous. C'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer, justement, et c'est le bienfait de cette émission. Que quand on monte une entreprise, il y a un moment donné, il va falloir manier des chiffres. Il ne faut pas confondre le bénéfice, le chiffre d'affaires, etc. Et on en parle effectivement, et c'est bien justement que l'investisseur pose les bonnes questions, lui disant, monsieur, combien coûte votre blouson? Il vaut 10, et vous allez le vendre combien? 14. Mais alors avec les 4, qu'est-ce que vous allez en faire? Et ça permet, je crois, à celui qui regarde de se dire, pour tout le monde qui l'entoure, l'épicier, le boucher, etc., comment ça se passe un peu dans la vraie vie, et parler un peu de problèmes concrets qui est le tiroir-caisse, plutôt que de toujours parler.
Alors, c'est le bien tiroir-caisse, aujourd'hui, il y a une Sophie Davant, tous les jours, sur France 2, qui fait des enchères. Ouais. Voilà, ça s'appelle Affaires conclues. Et pour la première fois, on voit des billets, des vrais billets qui s'échangent sur la table. Il y a Stéphane Plaza qui va chez les gens et qui leur dit, alors, combien vaut votre appartement? Mais vous, combien vous gagnez? Quel est le montant de votre...
Il y a le jeu de Laurence Boccolini, où là, vous avez carrément les millions qui étaient alignés sur la table pour faire rêver.
Est-ce que tout ça, ça a changé à la télévision française? Est-ce que c'était beaucoup plus délicat auparavant?
Alors là, on va faire un petit détour. Je pense que là, on rentre maintenant dans une problématique de pouvoir d'achat, dans ce moment-là de l'interview. C'est que je crois qu'il y a vraiment des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Vous savez, à la radio, nous, des fois, on fait gagner des choses. Il y a 10 fois plus d'appels quand vous faites gagner une somme. Aujourd'hui, nous vous donnons la possibilité de gagner 1000 euros. D'ailleurs, vous voyez, à chaque match de foot, vous pouvez gagner 5000 euros si vous répondez. On vous pose une question tellement stupide que pour arriver à donner la mauvaise réponse, il faut donner de la bonne volonté. Et si vous faites gagner, ça m'est arrivé, un voyage au bout du monde, vous n'avez quasiment
aucun appel.
Pas aucun, mais vous en avez beaucoup moins parce que ça fait peur. Ils se disent, mais attendez, il va falloir prendre un taxi pour aller, ça va nous coûter cher. Alors que
les
là,
gens ont besoin d'argent, tout simplement.
Les gens ont besoin d'argent. Alors ça, sur le pouvoir d'achat, au quotidien, je peux vous le dire, parce que dans toutes mes émissions, la principale préoccupation des Français aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'argent.
Ça, d'où le recentrage de Capital quand vous avez repris Capital l'année dernière. Vous l'avez annoncé tambour battant. Ça restera de l'enquête, ça restera de l'investigation. Mais ma préoccupation principale, c'est le porte-monnaie des Français.
Ce n'est pas que ça, puisque là, on va faire une semaine verte où on va inviter Nicolas Hulot. Mais c'est, puisqu'on parle d'économie, parlons aussi de l'économie du porte-monnaie, du quotidien. Mm-hmm. C'est une petite entreprise, une famille, où il y a des dépenses, il y a des rentrées, et ils ont besoin de savoir tout ce qui se passe derrière quand ils achètent une baguette de pain, etc. Donc, on a un petit peu recentré, effectivement, l'émission là-dessus.
Avec toujours, toujours l'idée qu'on peut se questionner sur l'honnêteté d'un prix.
Personnellement, moi, je trouve ça honteux que certains puissent annoncer que pour le Black Friday, le truc qui était à 60 passe à 40, alors qu'en fait, il n'était qu'à 50. En fait,
Le Black Friday, mais c'est la grosse opération de promo qui nous vient des États-Unis et qui a fait un tabac là au début du mois de décembre.
Heureusement que les médias comme le vôtre et comme d'autres, de temps en temps, mettent le doigt dessus en disant arrêtez de prendre on ne peut pas comme ça impunément mentir aux gens et leur faire croire qu'ils font une affaire.
Donc, la méfiance du consommateur, la méfiance de l'usager, c'est aussi un peu réducteur comme façon d'aborder l'économie, on est d'accord.
Ah non, mais moi je peux pas aborder toutes les économies. Ouais. Moi c'est un créneau que j'ai choisi. Après vous avez sur BFM Business, sur Radio Classique, sur tout ce que vous voulez, des tas d'économistes qui la traitent différemment. Moi c'est je
sur
peux pas
France
tout faire.
Sur France Inter, on a même Dominique ce tous les matins.
Sur France Inter et ça marche très très bien. Et je vous en félicite. Mais voilà, moi c'est l'économie du porte-monnaie, c'est le quotidien des gens. Et je me suis un petit peu spécialisé, mais ça me passionne. C'est pour ça que je fais ça.
Merci beaucoup,
c'est moi.
Julien Courbet, d'avoir fait une infidélité à vos auditeurs pour être venu parler au nôtre. Je rappelle que sur M6, vous animez Capital un dimanche soir sur deux, que ce soir démarre Qui veut être mon associé, que vous êtes toujours tous les matins sur RTL et que le 25 janvier sur Paris Première, qui dépend aussi du groupe M6, votre one man show, parce que oui, vous avez fait aussi du one man show.
De temps en temps, une petite récréation.
C'est ça, sera diffusé en direct depuis le théâtre de la Tour Eiffel. Merde, comme on dit dans le métier.
Merci Sonia.
Et un gros mot, hein. Et Ali Rebeilly, dans
bonjour. Bonjour, Sonia De Villers. Eh bien, ce matin, figurez-vous que nous ferons l'éloge du retard avec la psychanalyste et philosophe Hélène Leuillet. Vous allez voir, c'est formidable. Si vous êtes retardataire, si vous ne supportez pas le retard, appelez-nous au 01 45 24 7000.
Je m'amuse parce que je rends l'antenne en retard.